Itinéraire. Bienvenue sur Itinéraire, émission de Radio Grand Ciel sur une idée du foyer d'accueil Chartrain. Itinéraire vous propose de découvrir chaque semaine des parcours de vie discrets, mais toujours divers et singuliers, à travers la voix de nos invités.
Bonjour chers auditeurs, donc je me présente, Geneviève Naudin. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet très spécifique qu'on appelle les ovnis, avec Michel Ribardière. Bonjour Michel.
Bonjour Geneviève.
Bienvenue.
Merci.
Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors, je suis un chercheur dans le domaine de l'ufologie. Ou ovniologie, comme on veut, c'est-à-dire, donc logie, l'étude, ovni, les ovnis, l'étude des ovnis. Bien. Voilà, depuis de nombreuses années.
Alors, et ovni, ça veut dire quoi ?
Ovni, alors, ça veut dire objet volant non identifié.
Voilà.
Donc, un objet volant, mais on ne sait pas ce que c'est.
Oui. Voilà. Alors, pouvez-vous vous présenter un petit peu davantage vos origines et pourquoi ?
Je suis né en Polynésie française à Tahiti en 67 et j'ai eu la chance de vivre à Kourou en Guyane française de nombreuses années parce que mon père était l'un des directeurs du centre spatial qui envoie la fusée Ariane. Voilà, dans les étoiles, on va dire. Mmh. Et puis, voilà, j'ai eu la chance de voyager et puis de me marier, d'avoir des enfants. J'ai donc 4 enfants. Mmh. Et je suis rentré en France en 2005. Et depuis 2005, je suis rentré parce que j'avais envie de travailler sur le sujet OVNI et j'avais envie que ça soit fait en France. Je suis souvent mes intuitions comme ça, je sentais que c'est ce qui me convenait, donc je suis revenu. Alors c'est pas un métier, on peut pas vivre de cela, mais on peut faire partie de divers groupes de recherche, associatifs ou pas. Donc j'ai eu la chance de travailler un petit peu pour le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui est un service du CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Mmh. Les ovnis, on parlait d'ovnis, objets volants non identifiés, effectivement, ce sont des objets qui sont détectés partout dans le ciel, dans tous les pays, au-dessus de tous les continents, et ça depuis des décennies et des décennies et des décennies. On en a, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais les appelaient les Foo Fighters, les Américains les Krautbolides, les Krautbolides, et les Anglais ou les Américains les Foo Fighters. Et donc c'est pour vous dire que bon voilà, il y a quand même quelques années, et encore ça c'est encore très jeune, hein, on en a beaucoup beaucoup plus anciens, autant des Égyptiens, autant des Sumériens, etc., qui sont décrits dans les textes. Une des caractéristiques les plus intéressantes, oui, quand on s'adonne à l'étude des ovnis, quand on commence cette étude, c'est effectivement de constater que quelle que soit l'origine des témoins, quelle que soit leur culture religieuse, leurs origines nationales, géographiques, etc., eh bien, les descriptions connaissent une certaine unicité. C'est-à-dire qu'elles se ressemblent. C'est-à-dire que les descriptions sont à peu près les mêmes, que vous soyez chinois ou que vous soyez américain, etc. Ça, c'est à peu près la même chose. Donc, ça nous donne un élément un petit peu de crédibilité, vous voyez, supplémentaire.
Oui, oui. Voilà. Et alors, comment peut-on décrire ces objets ?
Alors, mais quand on parle de ces engins, bien certains ont vu des triangles, d'autres ont vu des formes ovoïdes. On parle d'ovni, de soucoupe volante. On parle de il y a toutes sortes quand même malgré tout. Il y a toutes sortes de variations dans la forme elle-même, hein. Un peu comme nous, on a toutes sortes de voitures, on a des camions, on a des caravanes, on a toutes sortes de trucs. Et là, c'est la même chose. Ensuite, il y a leur description dans l'espace. Alors, quelquefois, les témoins nous laissent envisager que ces engins vont plus vite que le son, alors qu'ils n'ont pas fait de bang sonore. Alors ça, c'est aussi, c'est pas mystérieux, on sait le faire. Jean-Pierre Petit, ex-directeur de recherche au CNRS, avait d'ailleurs montré qu'on pouvait le faire. Hein. Ça dépend de tout un tas de critères de forme.
Parce que ça fait pas de bruit.
Voilà. Or, quand vous allez à la vitesse du son, quand vous dépassez le mur du son, vous avez forcément un bang.
Alors, donc vous disiez que ça fait un bang normalement quand on dépasse le mur du son.
Oui, ça devrait effectivement faire un bang. Mais il y a tout un tas d'autres caractéristiques qui sont vraiment très intéressantes. Le fait qu'ils soient, ils aient cette capacité à survoler à très basse altitude ou à littéralement s'arrêter en plein vol. Et puis, voilà, quand ils sont prêts, ils repartent. Ou encore, lorsque nos avions de chasse tentent de les cerner, on sent bien qu'ils sont en train de rigoler, hein, parce qu'ils peuvent tout à fait faire des virages qui sont impossibles pour nous, et puis repasser derrière les avions, et puis etc. Donc c'est vraiment tout un tas de choses qui sont assez fantastiques pour nous, parce que c'est un petit peu comme si ils n'étaient pas sujets aux lois sur lesquelles nous on s'appuie pour faire voler nos avions, hein, comme les lois de la cinétique. Mais voilà, donc tout un tas d'éléments qui sont pour l'instant incompris qui continuent d'être l'objet de nombreuses recherches, parce que de toute façon un pays comme le nôtre se doit d'étudier ce genre de phénomène parce qu'il représente. Alors on part du principe que comme ils savent faire ce qu'on sait pas faire et qu'ils interviennent sur des endroits parfois, hein, on voit bien que ces engins-là sont détectés au-dessus des centrales nucléaires ou bien au-dessus des porteurs de...
Alors ce qu'on appelait les drones, ça aurait été les fameux drones qui survolaient nos centrales nucléaires, ça serait des ovnis en fait.
Alors on a un directeur de centrale d'ailleurs, hein, celui de Blayet, qui a déclaré lui-même, nous on n'a pas vu de drone, on a vu un ovni. Hein, donc c'était, il répondait à la question d'un politique et ça se passait devant les médias, donc ça a d'ailleurs été rapporté à l'époque. Hein. C'était en 2014, hein, vous parlez de la vague de manifestation de 2014 au-dessus des centrales nucléaires françaises. Mais il y a eu régulièrement des manifestations venues au-dessus des centrales, qu'elles soient françaises, qu'elles soient russes, qu'elles soient américaines. Alors récemment, il y a 3-4 semaines, je me trouvais à Lima puis à Cusco avec quelqu'un qui est devenu mon ami d'ailleurs, qui s'appelle Bob. Enfin, on l'appelle, en fait, son véritable nom, c'est... ça y est, j'ai oublié le nom. Robert Salas, qui donc avait la responsabilité de 10 missiles nucléaires en 67, lorsque sur la base de Maelstrom, il s'est fait désactiver ces 10 missiles nucléaires par un ovni qui avait été observé en surface par les hommes. En fait, les troupes qui voyaient l'OVNI. Et puis, suite à ça, ces 10 missiles nucléaires sont passés en position no-go. C'est-à-dire que, en fait, toute leur navigation était perturbée et on ne pouvait plus les lancer sans prendre de risques. Il fallait réparer. Donc, on voit bien qu'ils interviennent au-dessus de stockage des missiles ou bien les porteurs de missiles, hein, que ce soit des sous-marins, des porte-avions, etc. Bon, évidemment, la défense ne va pas aller se vanter de se faire survoler par des engins qu'elle ne contrôle pas et qui font ce qu'elles veulent.
Est-ce qu'on en a aperçu sur le sol de ces engins?
Ah oui, bien
posés
sûr.
Posés sur le sol. Et quelle est l'image que les gens donnent?
Oui, il y a eu de nombreux témoins ont fait l'observation d'engins de ce type-là qui se sont posés et parfois même d'individus qui sont sortis de ces engins-là parce que on parle d'engins,
ils sont habités.
Il y a une intelligence derrière. Alors, ça pourrait ne pas être habité, ça pourrait être des intelligences artificielles, après tout, pourquoi pas. Aujourd'hui, nous aussi, on peut faire des voitures sans conducteur, déjà. Et même des avions sans pilote. Hein. On sait déjà le faire, hein. Des drones, par exemple. Mais il y a eu aussi, effectivement, à certaines occasions, des rencontres avec même des témoins. Et à d'autres occasions, il y a eu plus que des rencontres. Et là, on commence à rentrer dans le domaine mystérieux des abductions.
L'ufologie, c'est quoi ce domaine mystérieux?
En ufologie, en ovniologie, il y a tout un tas de, on va dire, j'ai pas envie de dire de disciplines, mais disons de domaines de recherche absolument tous plus fantastiques les uns que les autres. Tous plus mystérieux les uns que les autres. Et il y a de nombreuses personnes de par le monde qui travaillent là-dessus, hein. Aussi bien dans les milieux, je dirais, officiels. Alors, officiels, bon, il y a quelques pays, il n'y en a pas tant que ça, il y a quelques pays qui ont une organisation officielle. En France, on a le GIPAN, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, je crois.
Tout à l'heure, ouais.
Et puis, mais bon, il y a d'autres pays d'Amérique du Sud qui ont aussi quelques trucs là-dessus. Et puis aussi en Chine. Mais c'est évident que quand vous êtes face à ce qui semble être des technologies extérieures, vous êtes obligé, quand vous êtes responsable de la défense d'un pays, vous êtes obligé d'étudier ça, de voir ce qu'ils veulent, d'essayer de comprendre qui ils sont et là où ils veulent en venir. Et peut-être même, et dans certains cas, et je pense que les Américains ne sont pas privés de le faire, du moins de tenter de le faire, d'essayer d'en capturer pour voir si... On peut en savoir encore plus.
Et si la technologie utilisée pouvait être utile pour nous terriens.
Ah, bien entendu. Et si jamais, effectivement, on avait pu faire ce qu'on appelle, entre guillemets, de la rétro-ingénierie, eh bien, après, il y a des décisions qui sont plus politiques, qui doivent être prises. Est-ce qu'on avertit les citoyens ou est-ce qu'on les avertit pas? Est-ce qu'on va leur dire, tiens, mais il y a des gens qui viennent de l'extérieur qui sont 10 fois plus puissants que nous et on sait même pas jusqu'à quel niveau et qui viennent chez nous et qui font ce qu'ils veulent. Ne vous inquiétez pas, on contrôle. Vous voyez, tout le monde va rigoler. Donc voilà, après, il y a des décisions qui doivent être prises et peut-être qu'un jour, je sais pas, qui sait, peut-être dans 100 ans, 200 ans ou plus, ou peut-être moins, qui sait, peut-être qu'un jour. Parce que visiblement, si ces gens voulaient nous dire quelque chose officiellement, ce serait déjà fait, vous voyez, devant tout le monde.
Oui.
À moins que ça ait été fait discrètement, évidemment, il y a toujours cette possibilité. Mais on peut espérer qu'un jour, dans 50 ans, 100 ans, 200 ans, ou peut-être avant, ce serait bien, il y ait vraiment un contact qui soit pris plus officiellement, plus publiquement avec, avec nos sociétés.
Et jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu de contacts publics ont été rendus publics.
Alors, on n'a pas eu de contacts comme ça qui ont été rendus publics, évidemment. Mais par contre, on est forcé devant, je dirais, les événements de l'histoire, de constater qu'il y a des choses inexpliquées. On va parler, par exemple, de la bataille de Los Angeles. Juste après, quelques mois après l'attaque de Pearl Harbor, les Américains se retrouvent à Los Angeles avec des engins inconnus au-dessus de Los Angeles. Ils croient que c'est les Japonais. Ils tirent un millier d'obus et même un peu plus. Et les seuls morts qu'ils vont avoir, c'est quand les obus retombent vers eux, quoi. Et ils vont évidemment, ils ne vont pas arriver a priori à toucher le moindre engin.
Alors, donc, nous allons en finir par une petite conclusion un peu spirituelle. Alors, qu'est-ce que cela vous apporte sur le plan spirituel quand on a connaissance de toutes ces rencontres, même d'individus humains et avec ces êtres dont on ne sait pas les origines ?
Très rapidement, lorsque vous étudiez tous ces sujets, vous êtes obligé d'envisager sérieusement que l'univers soit plus grand qu'on le pense, qu'il y ait peut-être même d'autres êtres qui soient intelligent et même plus intelligent que nous. Et évidemment, sur un plan spirituel, ça vous force d'abord au respect vis-à-vis du reste des autres êtres dans l'univers. Ça vous force à l'ouverture aussi. Et puis, ça nous indique que, voilà, il ne faut pas rester comme des fonctionnaires dans notre vie, à faire métro, boulot, dodo. Et qu'il faut laisser sa curiosité s'exprimer. Il faut rechercher. Il faut aller de l'avant. Ça fait partie des sens de notre existence, d'aller découvrir l'univers et peut-être de rencontrer un jour des gens qui seront peut-être, qui sait, on ne sait jamais, ils pourraient peut-être même être plus sympathiques que nous.
C'est-à-dire une bienveillance envers nous. En fait, c'est ce qu'on a l'impression de vous entendre dire ça, que ces gens qui ont l'impression de surveiller un petit peu notre monde, notre terre, etc., ont toujours été bienveillants, parce que s'ils auraient voulu la détruire, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait. On peut penser ça.
Oui, je crois qu'il faut le penser.
Il faut le penser. C'est une note très optimiste pour terminer cette émission. Alors, pour aller plus loin, où est-ce qu'on peut s'adresser pour les personnes qui seraient intéressées par une rencontre ou essayer d'en savoir un peu plus sur...
Vous tapez FEA, plus loin OVNI, et puis vous trouverez sur Internet.
Eh bien, c'est une très bonne raison d'aller voir sur Internet ce qui s'y passe. Au revoir, chers auditeurs.
Au revoir, tout le monde. Vigono bota o dem o kripo min o dem en enda gomma vi kue
Vigo non potorem cripo mi.